réseau Cogeco. Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport avec Yannick Bouchard.
16h50 sur l'ensemble du réseau Cogeco. On est là jusqu'à 18h30. Juste avant de parler de tennis, je vous rappelle que le Canadien a fait l'acquisition de l'attaquant Joel Armia des Jets, du gardien Steve Mason et de deux choix au repêchage de l'équipe de Winnipeg en retour du défenseur Simon Bourque. Et plus tard, le Canadien a soumis le nom de Mason au ballottage dans le but de racheter le contrat. Mason était sous contrat pour une saison et devait empocher 4,1 millions de dollars la saison prochaine. Donc, son salaire va compter pour 1 366 667 $ au cours des deux prochaines saisons. Armia, la saison dernière, 79 parties, 12 buts, 17 passes, 29 points. Et il a ajouté 2 buts en 13 matchs en série. On va parler à 17h15 à Philippe Quentin de tout ce qui se passe dans la Ligue nationale, de l'actualité du dossier de John Tavares et également à Martin McGuire à 17h30. Mais là, on va parler de tennis parce que c'est lundi que se met en branle le tournoi de Wimbledon, le troisième tournoi majeur de la saison. Et je pense que c'est un des tournois préférés d'Hélène Pelletier. Bonsoir, Hélène.
Oui, bonjour, Yannick. Tu as raison. En fait, c'est tellement un endroit mythique, magique. C'est le plus beau jardin du monde. Alors, c'est un tournoi qui est particulièrement cher à mon cœur parce que c'est le seul où j'ai pu finalement me qualifier en simple. Mm-hmm. Alors, j'ai survécu, comme Eugénie Bouchard, oui, au tournoi de Roehampton, parce que c'est ce qu'il y a de particulier à ce tournoi du Grand Chelem. Les joueurs comprennent, mais en même temps, c'est très difficile pour eux. Mais il n'y a pas si longtemps, tu sais, les qualifications ne jouaient pas. Moi, j'ai joué des qualifications de Roland-Garros, et là, je te ramène quand même pas au début des années 1900, là. Pas loin, mais...
t'exagères.
Écoute, les qualifs se jouaient à Jean Bouin, qui est un stade qui est pas tellement loin de Roland-Garros, mais un champ de patates, mon ami, presque aussi pire que celui de Roehampton, qui s'est, Dieu merci, quand même amélioré au fil des années, mais c'était comique de lire, ça me faisait sourire en tout cas, de lire les commentaires des joueurs et des joueuses. Ah, mon doux, je suis passé à travers Roehampton, c'est comme s'ils avaient fait un voyage missionnaire en Afrique.
Bon, ben parle-nous-en de Eugénie Bouchard, commençons avec elle. Bon, finalement, la voilà au tableau principal d'un tournoi majeur, celui de Wimbledon.
Oui.
Ça faisait longtemps. Là, elle va affronter Gabriella Taylor, 182e mondiale. Elle est une invitée des organisateurs, mais quand tu regardes les statistiques de Taylor, il va falloir que Bouchard se présente pour jouer au tennis, là.
Absolument. Ouais, c'est quelquefois, hein. Puis de toute façon, si on y va par le classement, Taylor mieux classé que Eugénie Bouchard. Alors,
exact.
Il faut vraiment qu'elle prenne ce match-là au sérieux. Tu as bien raison, Yannick, parce que elle a 20 ans. C'est une fille qui a quand même 26 victoires cette année. Elle a gagné trois tournois de la Fédération internationale de tennis. Et ça, ben, si on se prête au jeu des comparaisons, c'est à peu près des tournois d'une valeur de 25 000 $ en bourse au total. Mais c'est la guerre dans ces petits tournois-là, tu sais. C'est extrêmement compétitif. Et si on veut se donner un barème qui est beaucoup plus proche de la réalité que l'on connaît à la télé, parce que nous, on ne fait que les grands tableaux des grands tournois, bien, elle vient d'amener Donna Vekic, qui est quand même une fille qui est 46e au monde, qui est considérée encore aujourd'hui. La plupart des gens la connaissent surtout parce qu'elle est tout le temps aux abords du terrain lorsque son copain de cœur, Stan Wawrinka, joue. Mmh. Mais c'est quand même une fille qui a été considérée comme une des grands espoirs alors qu'elle était junior. Puis elle est 46e au monde présentement. Et cette fameuse Miss Taylor l'a amenée jusqu'au bris d'égalité de la troisième manche il y a quelques jours. Alors, c'est une joueuse qui s'est joué sur herbe, visiblement, qui a fait ses marques, qui a joué énormément de matchs, comme je le disais tout à l'heure. Alors, pour Eugénie, ce ne sera pas une partie de plaisir, mais écoute, on retrouve un endroit comme celui-là où elle a fait la finale en 2014. C'est absolument magique ce qu'elle a vécu. C'est un conte de fées. Et là, de passer, de s'humilier dans un sens, de passer à travers ce test à Roehampton, d'être obligée de répondre aux questions des journalistes britanniques, visiblement, ça ne lui faisait pas plaisir, parce que pour elle, c'est une situation qui est un peu gênante. Puis elle sent qu'on la juge, puis elle sent qu'elle est mal aimée. En tout cas, c'est un peu compliqué, sa situation présentement, puis on peut comprendre, c'est une dégringolade qui n'en finit plus. Mais si elle peut essayer d'aller chercher une victoire, ce serait par la suite fort probablement contre une autre jeune, une talentueuse fille, une Australienne Ashleigh Barty, qui, elle a une main en or, cette fille-là. Mais si Eugénie peut être puissante, ceci étant dit, Yannick, je n'ai pas trouvé qu'elle semblait avoir, en raison de blessures, là, ça s'explique, mais sa forme optimale. De ce que j'en ai vu de ses matchs en qualification, elle était un petit peu moins rapide que ce que j'avais vu d'elle à la Coupe Fed. Mais c'est sans doute en raison des blessures, puis un peu le découragement après, évidemment, un autre arrêt forcé.
OK. C'est la seule Canadienne. Écoute, il nous reste un peu plus de 2 minutes, Hélène. Je veux y aller très rapidement. On va y aller très rapidement oui. parce qu'il y a 4 Canadiens en lice.
Oui.
Raonic, Polensky, Chapovalov et Pospisil. Lequel, selon toi, va avoir le plus beau parcours?
En fait, Miloš Raonic, c'est très certainement le joueur qui a le plus d'expérience.
Finaliste en 2016, oui.
2016, sa belle finale. Les organisateurs le croient aussi, Yannick, parce que il est, dans le fond, en ce jour, 32e au monde, et on l'a avancé, ce que l'on fait avec fierté à Wimbledon en raison de la surface toute particulière. On favorise les joueurs qui, évidemment, savent réussir de belles choses sur cette surface. Et Raonic, c'est 13e tête de série. Il devrait battre le Britannique Liam Brody. Par la suite, ce serait au 3e tour contre fort probablement Lucas Pouille, si Pouille retrouve sa justesse, et éventuellement le finaliste de l'an dernier, Marin Cilic.
Okay.
L'autre tête de série dans sa portion de tableau, je m'inquiète pas trop, Dimitrov ne gagne pas beaucoup ces temps-ci. Bon, il y a John Isner avec son immense service, et sinon, si on va plus loin, s'il est suffisamment en santé, et c'est toujours le point d'interrogation dans son cas à lui, ce serait potentiellement Roger Federer. Okay. Polensky est un lucky loser, il a été repêché après avoir perdu au 3e tour de qualification, va jouer contre l'Autrichien Denis Novak. C'est pas nécessairement un joueur d'herbe, alors je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Denis Chapovalov n'a qu'une victoire en 3 matchs, en 3 tournois préparatoires. Et ça, c'est un petit peu décevant. Mais écoute, c'est en 2016 qu'il gagnait chez les juniors. On va lui donner du temps,
et
d'accord? Il a bien mérité ça.
Et Pospisil?
Pospisil, lui, va jouer contre Mikhail Kukushkin, qui est un Kazakh, qui est un joueur qui aime les surfaces rapides, tandis que Chapovalov va jouer contre Jérémy Chardy, qui a 12 victoires en 14 matchs sur gazon cette année.
Hélène, rapidement, est-ce que Roger, en 10 secondes, va gagner un 9e titre sur gazon?
Et un 21e au total en Grand Chelem, oui!
OK! Et chez les dames, Simona Halep?
Oui, ça va être difficile.
OK.
Ça va être très, très difficile du côté d'Halep. Peut-être Kvitova, Muguruza.
On va avoir le temps de s'en reparler. Merci, Hélène.
Bye-bye.
Bye-bye.